Friedrich Nietzsche, humain trop humain, humain trop humain, tome 2, opinions et sentences mêlées, suite. 51. Joie et erreur. L'un fait involontairement du bien à ses amis par toute sa nature. L'autre, volontairement, par des actes particuliers. Si le premier cas est considéré comme supérieur, c'est au second seulement que s'allie une bonne conscience et un sentiment de joie. Je veux dire, la joie que procurent les bonnes œuvres, un sentiment qui repose sur la croyance que nous pouvons à volonté faire le bien ou le mal, c'est-à-dire sur une erreur. 52. On a tort d'être injuste. Une injustice que l'on a faite à quelqu'un est beaucoup plus lourde à porter qu'une injustice que quelqu'un d'autre vous a faite, non pas précisément pour des raisons morales, il faut le remarquer. Car, au fond, celui qui agit est toujours celui qui souffre, mais bien entendu, seulement quand il est accessible au remords, ou bien à la certitude que, par son acte, il aura armé la société contre lui et il se sera lui-même isolé. C'est pourquoi, abstraction faite de tout ce que commandent la religion et la morale, on devrait, rien qu'à cause de son bonheur intérieur, donc pour ne pas perdre son bien-être, se garder de commettre une injustice plus encore que d'en subir une. Car, dans ce dernier cas, on a la consolation de la bonne conscience, de l'espoir de la vengeance, de la pitié et de l'approbation des hommes justes, et même de la société tout entière, laquelle craint les malfaiteurs. Quelques-uns, et ils ne sont pas un petit nombre, s'entendent à la ruse malpropre de transformer toute injustice qu'ils ont commise en une injustice qui leur a été faite, et à se réserver, pour excuser ce qu'ils ont fait, le droit exceptionnel de la légitime défense, pour porter ainsi plus facilement leur fardeau. 53. Jalousie avec ou sans porte-parole. La jalousie ordinaire a l'habitude de caqueter dès que la poule enviée a pondu un œuf. C'est une façon de se soulager et de se calmer. Mais il existe une jalousie plus profonde encore. Dans ce cas, celle-ci ne dira pas un mot, et elle souhaitera que l'on ferme la bouche à tout le monde, furieux qu'il n'en soit justement pas ainsi. La jalousie qui se tait grandit par le silence. 54. La colère comme espion. La colère épuise l'âme jusqu'à la lie, en sorte que le fond paraît à la lumière. C'est pourquoi, si l'on n'arrive pas à voir clair d'une autre façon, il faut s'entendre à faire mettre en colère son entourage, ses partisans et ses adversaires, pour apprendre ce que l'on pense et ce qui se fait secrètement contre vous. 55. La défense est moralement plus difficile que l'attaque. Le vrai coup de maître, le véritable trait héroïque de l'homme bon, ne consiste pas à attaquer la cause tout en continuant à aimer la personne, mais en quelque chose de beaucoup plus difficile, à savoir défendre sa propre cause sans faire de peine et sans vouloir en faire à la personne qui attaque. La lame de l'attaque est franche et large. Celle de la défense s'effile généralement en pointe d'aiguille. 56. Honnête contre l'honnêteté. Celui qui est publiquement honnête à l'égard de lui-même finit par avoir une haute idée de son honnêteté, car il ne sait que trop bien pourquoi il est honnête. pour la même raison qu'un autre m'aide à préférer l'apparence et la simulation. 57. Charbons ardents. On interprète généralement mal la démarche qui consiste à amasser des charbons ardents sur la tête de quelqu'un parce que l'autre se sait également en possession de son bon droit et a lui aussi songé à amasser des charbons. 58. Livre dangereux. Quelqu'un a dit « Je le remarque sur moi-même, ce livre est dangereux. » Mais qu'il attende un peu et il s'apercevra certainement un jour que ce livre lui a rendu un grand service en mettant à jour la maladie cachée de son cœur, la rendant ainsi visible. Les changements d'opinion ne changent pas le caractère d'un homme, ou du moins fort peu. Ils éclairent cependant certains côtés de la configuration de sa personnalité qui, jusqu'à présent, avec une autre constellation d'opinions, était restée obscure et méconnaissable. 59. Compassion feinte. On feint de la compassion lorsque l'on veut se montrer au-dessus du sentiment d'inimitié, mais c'est généralement en vain. On ne s'en aperçoit pas sans que ce sentiment d'inimitié n'augmente beaucoup. 60. La contradiction ouverte est souvent conciliante. Au moment où quelqu'un manifeste ouvertement les différences d'opinion qui le séparent d'un célèbre chef de parti ou d'un maître, tout le monde croit qu'il en veut à celui-ci. Mais il arrive que c'est justement à ce moment-là qu'il cesse de lui en vouloir. Il ose se présenter à côté de lui et il est débarrassé de la torture occasionnée par la jalousie muette. 61. Voir luire sa lumière. Dans un état d'obscurcissement comme la tristesse, la maladie, la contrition, il nous est agréable de voir que nous pouvons encore faire de la lumière pour d'autres et qu'ils perçoivent chez nous une sphère lumineuse produite de la même façon que celle de la lune. Par ce détour, nous participons de notre propre faculté d'éclairer. 62. Joie partagée. Le serpent qui nous mord croit nous faire du mal et s'en réjouit. L'animal le plus bas peut imaginer la douleur d'autrui. Mais imaginer la joie d'autrui et s'en réjouir, c'est là le plus grand privilège des animaux supérieurs. Et parmi ceux-ci, il n'y a que les exemplaires les plus choisis qui y soient accessibles. C'est-à-dire un humanum rare, en sorte qu'il y a eu des philosophes qui ont nié la joie partagée. 63. Grossesse ultérieure. Ceux qui sont parvenus à leurs œuvres et à leurs actions sans savoir comment en sont d'autant plus pleins après coup, comme pour démontrer ultérieurement que ce sont leurs enfants à eux et non point ceux du hasard. 64. Dur par vanité. De même que la justice est souvent le manteau de la faiblesse, de même, les hommes bien pensants mais faibles ont parfois recours à la dissimulation et prennent visiblement une attitude injuste et dure pour donner l'impression de la force. 65. Humiliation. Si quelqu'un trouve dans un sac plein d'avantages qui lui a été offert un seul grain d'humiliation, il fera quand même mauvaise mine à bon jus. 66. Érostratisme extrême. Il pourrait y avoir des érostrates qui qui incendieraient leur propre temple où l'on adore leurs images. 67. Le monde des diminutifs. Tout ce qui est faible et a besoin de secours parle au cœur. C'est ce qui a amené l'habitude de désigner par des amoindrissements et des affaiblissements dans l'expression tout ce qui parle à notre cœur, donc de le rendre faible et pitoyable selon notre sentiment. 68. Défaut de la pitié. La pitié est accompagnée d'une insolence particulière. Elle voudrait aider à tout prix, ce qui fait qu'elle ne s'embarrasse ni du remède, ni du genre et de l'origine de la maladie. Elle drogue courageusement sur la santé et la réputation de son malade. 69. Indiscrétion. Il y a aussi une sorte d'indiscrétion à l'égard des œuvres. Et c'est une preuve d'un manque absolu de pudeur si, dès son jeune âge, on veut se mêler en imitateur aux œuvres les plus sublimes de tous les temps, avec la familiarité du tu et du toi. D'autres ne sont importuns que par ignorance. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. C'est assez souvent le cas des philologues, jeunes et vieux, dans leur rapport avec les œuvres des Grecs. 70. La volonté a honte de l'intellect. Nous faisons froidement les plans les plus raisonnables contre nos passions, mais nous commettons ensuite les plus graves fautes parce que, souvent, au moment où le projet devrait être exécuté, nous avons honte de la froideur et de la circonspection que nous avons mis à le concevoir. On fait alors justement ce qui est déraisonnable à cause de cette façon de générosité altière que toute passion amène avec elle. 71. Pourquoi les sceptiques déplaisent à la morale? Celui qui place très haut sa moralité et la prend très au sérieux en veut à celui qui est sceptique sur le domaine de la morale. Car quand il met toute sa force en jeu, on doit s'extasier et non point examiner et douter. Il y a encore des natures chez qui tout ce qui reste de moralité est précisément la foi en la morale. Celle-ci se comporte de la même façon à l'égard des sceptiques, au besoin, avec plus de passion encore. 72. Timidité. Tous les moralistes sont timides parce qu'ils savent qu'ils sont confondus avec les espions et les traîtres dès que l'on remarque leur penchant. Ils ont, de plus, conscience que, d'une façon générale, ils sont faibles dans l'action, car au milieu de leur œuvre, les motifs qui les poussent à agir détournent presque entièrement leur attention de l'œuvre. 73. Un danger pour la morale universelle. Les hommes qui sont à la fois nobles et loyaux parviennent à diviniser la moindre diablerie que leur honnêteté fait éclore et à faire s'arrêter pour un moment la balance du jugement moral. 74. L'erreur la plus amère. On est irréconciliablement offensé lorsque l'on découvre que là où l'on était convaincu d'être aimé, on était considéré que comme ustensile d'appartement et comme pièce de décoration, sur quoi le maître de maison exerce sa vanité devant ses hôtes. 75. Amour et dualisme. Qu'est donc l'amour si ce n'est de se comprendre et de se réjouir en voyant quelqu'un d'autre vivre, agir et sentir d'une façon différente de la nôtre et opposée à celle-ci. Pour que l'amour aplanisse les contrastes par la joie, il ne faut pas qu'il supprime et qu'il nie les contrastes. L'amour de soi contient comme condition un dualisme absolu ou une multiplicité en une seule personne. 76. Interpréter selon le rêve. Ce que l'on ignore parfois à l'état de veille, ce que l'on est incapable de sentir, à savoir si l'on a une bonne ou mauvaise conscience à l'égard de quelqu'un, le rêve nous le fait savoir sans aucune équivoque. 77. Débauche. La mère de la débauche n'est pas la joie, mais l'absence de joie. 78. Punir et récompenser. Personne ne n'accuse sans avoir l'arrière-pensée de la punition et de la vengeance. Il en est même ainsi lorsque l'on accuse sa destinée ou bien lorsque l'on s'accuse soi-même. Toute plainte est une accusation. Toute joie est une louange. Que nous fassions l'une ou l'autre, toujours nous rendons quelqu'un responsable. 79. Deux fois injuste. Nous favorisons parfois la vérité par une double injustice. C'est le cas lorsque nous voyons et représentons, l'une après l'autre, les deux faces d'une chose que nous ne sommes pas capables de voir à la fois, mais de façon à méconnaître ou à nier chaque fois l'autre face, avec l'illusion que ce que nous voyons est toute la vérité. 80. La méfiance. La méfiance de soi n'a pas toujours des allures farouches et incertaines. Elle est parfois comme frénétique. Elle s'enivre pour ne pas trembler. 81. Philosophie du parvenu. Si l'on veut à toute force être quelqu'un, il faut aussi vénérer sa propre ombre. 82. S'entendre à se laver proprement. Il faut s'entendre à sortir plus propre encore de conditions malpropres et à se laver aussi avec de l'eau sale si cela est nécessaire. 83. Se laisser aller. Plus quelqu'un se laisse aller, moins le laissent aller les autres. 84. Le gredin innocent. Il y a une voie lente et graduelle pour arriver au vice et à la canaillerie sous toutes leurs formes. Au bout de cette voie, celui qui la suit a été complètement abandonné par l'essaim de mouches de la mauvaise conscience. Et bien que d'une scélératesse parfaite, il garde encore son innocence. 85. Faire des plans. Faire des plans et prendre des résolutions, cela procure beaucoup de sentiments agréables. Et celui qui aurait la force de n'être durant toute sa vie qu'un forgeur de plans serait un homme très heureux. Mais il lui faudra de temps en temps se reposer de cette activité en exécutant un plan. Et alors, viendront pour lui la colère et la désillusion. 86. Ce qui nous sert à voir l'idéal. Tout homme capable se bute à sa capacité et ne peut pas s'appuyer sur celle-ci pour juger librement les choses. S'il n'avait pas en outre une bonne part d'imperfection, sa vertu l'empêcherait de parvenir à la liberté intellectuelle et morale. Nos défauts sont les yeux par lesquels nous voyons l'idéal. 87. Louange déloyale. Les louanges déloyales occasionnent après coup beaucoup plus de remords que le blâme déloyal, probablement pour cette raison, que par des louanges exagérées, notre faculté de jugement découvre beaucoup mieux ses faiblesses que par le blâme violent et même injuste. 88. Il est indifférent comment on meurt. Toute la façon dont un homme pense à la mort, à l'apogée de sa vie, et durant qu'il possède la plénitude de sa force, est très parlante et significative pour ce que l'on appelle son caractère. Mais l'heure de sa mort par elle-même, son attitude sur le lit d'agonie, n'entre presque pas en ligne de compte. L'épuisement de la vie qui décline, surtout quand ce sont des vieilles gens qui meurent, l'alimentation irrégulière et insuffisante du cerveau pendant cette dernière époque, ce qu'il y a parfois de très violent dans les douleurs, la nouveauté de cet état maladif dont on n'a pas encore l'expérience, et trop fréquemment un accès de crainte, un retour à des impulsions superstitieuses, comme si la mort avait une grande importance et s'il fallait franchir des ponts d'espèces épouvantables. Tout cela ne permet pas d'utiliser la mort comme un témoignage concernant la vie. Aussi n'est-il point vrai que d'une façon générale, le mourant soit plus loyal que le vivant. Au contraire, presque chacun est poussé par l'attitude solennelle de son entourage, les effusions sentimentales, les larmes contenues ou répandues à une comédie de vanité, tantôt consciente, tantôt inconsciente. Le profond sérieux que l'on met à traiter chaque mourant a certainement été pour bien des pauvres diables, méprisés durant toute leur vie, la jouissance la plus subtile, une espèce de compensation et d'acompte pour bien des privations. 89. Les mœurs et leurs victimes. L'origine des mœurs doit être ramenée à deux idées. La communauté a plus de valeur que l'individu et il faut préférer l'avantage durable à l'avantage passager. D'où il faut conclure que l'on doit placer d'une façon absolue l'avantage durable de la communauté avant l'avantage de l'individu, surtout avant son bien-être momentané, mais aussi avant son avantage durable et même avant sa persistance dans l'être. Soit donc qu'un individu souffre d'une institution qui profite de la totalité, soit que cette institution le force à s'étioler ou même qu'il en meure, peu importe, la coutume doit être conservée, il faut que le sacrifice soit porté. Mais un pareil sentiment ne prend naissance que chez ceux qui ne sont pas la victime, car celle-ci fait valoir dans son propre cas que l'individu peut être d'une valeur supérieure au nombre. Et de même que la jouissance du moment présent dans le paradis pourrait être estimée supérieure à la faible persistance d'états sans douleur et de conditions de bien-être. La philosophie de la victime se fait cependant toujours entendre trop tard. On s'en tient donc aux mœurs et à la moralité. La moralité n'étant que le sentiment que l'on a de l'ensemble des coutumes sous l'égide desquelles on vit et l'on a été élevé. Élevé non en tant qu'individu, mais comme membre d'un tout, comme chiffre d'une majorité. C'est ainsi qu'il arrive sans cesse qu'un individu se majore lui-même au moyen de sa moralité. 90. Le bien et la bonne conscience. Vous pensez que toutes les bonnes choses ont eu de tout temps une bonne conscience. La science, qui est certainement une très bonne chose, a fait son entrée dans le monde sans celle-ci et sans aucune espèce de pathos, secrètement bien au contraire, passant le visage voilé ou masqué comme une criminelle et toujours affligée du sentiment de faire de la contrebande. Le premier degré de la bonne conscience est la mauvaise conscience. L'une ne s'oppose pas à l'autre, car toute bonne chose commence par être nouvelle, par conséquent inusitée, contraire aux coutumes, immorale, et elle ronge comme un ver le cœur de l'heureux inventeur. 91. Le succès sanctifie les intentions. Il ne faut point craindre de suivre le chemin qui mène à une vertu, lors même que l'on s'apercevrait que l'égoïsme seul, par conséquent l'utilité et le bien-être personnel, la crainte, les considérations de santé, de réputation et de gloire, sont les motifs qui y poussent. On dit que ces motifs sont vils et intéressés. Mais s'ils nous incitent à une vertu, par exemple le renoncement, la fidélité au devoir, l'ordre, l'économie, la mesure, il faut les écouter, quelle que soit la façon dont on les qualifie. Car, lorsque l'on a atteint ce à quoi ils tendent, la vertu réalisée anoblit à tout jamais les motifs lointains de nos actes grâce à l'air pur qu'elle fait respirer et au bien-être moral qu'elle communique. Et, plus tard, nous n'accomplissons plus ces mêmes actes pour les mêmes motifs grossiers qui autrefois nous y incitaient. L'éducation doit donc, autant que cela est possible, forcer à la vertu conformément à la nature de l'élève. Mais que la vertu elle-même, étant l'atmosphère ensoleillée et estivale de l'âme, y fasse sa propre œuvre et y ajoute la maturité et la douceur. 92. Christianiste et non pas chrétien. C'est donc là votre christianisme ? Pour mettre des hommes en colère, vous louez Dieu et ses saints. Et quand vous voulez louer des hommes, vous poussez vos louanges si loin qu'il faut que Dieu et ses saints se mettent en colère. Je voudrais que vous appréciez du moins à avoir les allures chrétiennes, puisque les douceurs d'un cœur chrétien vous font défaut. 93. Impression de la nature chez les hommes pieux et irreligieux. Un homme pieux et complet doit être pour nous un objet de vénération. Mais il doit en être de même pour un homme complet, sincèrement et entièrement irreligieux. Si, avec des hommes de la dernière espèce, on se sent dans le voisinage des hauts sommets, où les fleuves puissants ont leur source, avec les hommes pieux, on se croirait sous des arbres tranquilles et pleins de sève, aux larges ombrages. 94. Assassinat légaux. Les deux plus grands assassinats légaux de l'histoire universelle sont, pour parler sans détour, des suicides masqués et bien masqués. Dans les deux cas, on voulait mourir. Dans les deux cas, on se fit enfoncer l'épée dans la poitrine par la main de l'injustice humaine. 95. Amour. Le plus subtil artifice qui donne au christianisme l'avantage sur les autres religions se trouve dans un seul mot. Le christianisme parle d'amour. C'est ainsi qu'il devint la religion lyrique, tandis que dans ces deux autres créations, le sémitisme avait donné au monde des religions héroïco-épiques. Il y a, dans le mot amour, quelque chose de si ambigu qui stimule, qui parle au souvenir et à l'espérance, que l'éclat de ce mot rayonne sur l'intelligence, même la plus basse, et le cœur le plus froid. La femme la plus rusée et l'homme le plus vulgaire songent à ce moment qui, de toute leur vie, a peut-être été relativement le plus désintéressé Eros n'eût-il pris chez eux qu'un vol fort bas. Et ces êtres innombrables qui sont privés d'amour, privés soit de leurs parents, soit de leurs enfants, ou de tout ce qu'ils ont aimé, mais surtout les êtres dont la sexualité s'est sublimée, ont trouvé leur bonheur dans le christianisme. 96. Le christianisme accompli. Il y a même, dans le sein du christianisme, un sentiment épicurien qui part de l'idée que Dieu ne peut demander à l'homme, sa créature faite à son image, que ce que celui-ci est à même d'accomplir, que par conséquent, la vertu et la perfection chrétienne peuvent être atteintes et le sont souvent. Si donc on croit, par exemple, que l'on aime ses ennemis, quand même ce ne serait qu'une croyance, un jeu de l'imagination, et nullement une réalité psychologique, donc pas de l'amour, on devient parfaitement heureux tant que persiste cette croyance. Pourquoi en est-il ainsi? Le psychologue et le chrétien ne seront certainement pas d'accord à ce sujet. Il se pourrait donc que la vie terrestre devint par la foi, je veux dire par l'imagination, par l'idée que l'on satisfait non seulement à cette revendication d'aimer ses ennemis, mais encore à toutes les autres prétentions chrétiennes, et que l'on s'est vraiment approprié et assimilé la mise en demeure chrétienne « Soyez parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait », que la vie terrestre devint en effet une vie bienheureuse. L'erreur peut donc transformer en vérité la promesse du Christ. 97. De l'avenir du christianisme. On peut faire des suppositions sur la façon dont disparaîtra le christianisme et sur les contrées où il cédera le pas le plus lentement, si l'on examine pour quelles raisons et où le protestantisme se propagea avec le plus d'impétuosité. On sait qu'il promit de rendre les mêmes services que ceux rendus par l'Église ancienne, mais à bien meilleur compte, c'est-à-dire sans messes coûteuses, sans pèlerinage, sans pompes et richesses ecclésiastiques. Il se répandit surtout chez les nations septentrionales, ancrées moins profondément que celles du Midi, dans le symbolisme et le plaisir des formes propres à l'Église ancienne. Dans le christianisme de celle-ci, persistait un paganisme religieux beaucoup plus puissant, tandis que dans le Nord, le christianisme signifiait une opposition et une rupture avec les vieilles coutumes domestiques et fut dès l'abord, à cause de cela, plus intellectuel que porté vers les sens. Et aussi, pour la même raison, plus fanatique et plus opiniâtre aux époques de danger. Si l'on parvient à déraciner le christianisme en l'attaquant par l'esprit, on peut prévoir où il commencera à disparaître. Là précisément, où il se défendra avec le plus d'âpreté. Ailleurs, il pliera, mais il ne se brisera point. Il se dépouillera de ses feuilles, mais il lui en viendra de nouvelles, parce que ce sont les sens et non point l'esprit qui ont pris parti. Mais ce sont les sens qui entretiennent aussi l'idée que malgré tous les frais qu'exige l'Église, on s'en tire à meilleur compte et plus facilement qu'avec les rapports sévères qui existent du travail au salaire. Car à quel prix n'évalue-t-on pas les loisirs ou la demi-paresse? Quand une fois, on s'y est habitué. Les sens font à un monde déchristianisé l'objection qu'il y faudrait trop travailler et que l'on ne bénéficierait pas d'assez de loisirs. Ils prennent le parti de la magie, c'est-à-dire qu'ils préfèrent laisser à Dieu le soin de travailler pour eux. Oremus nos, Deus laborabit. 98. Historisme et bonne foi des incrédules. Il n'y a pas de livre qui contienne avec plus d'abondance, qui exprime avec plus de candeur, ce qui peut faire du bien à tous les hommes. La ferveur bienheureuse et exaltée, prête au sacrifice et à la mort dans la foi et la contemplation de sa vérité, que le livre qui parle du Christ, un homme avisé peut y apprendre tous les moyens par quoi l'on peut faire d'un livre un livre universel, l'ami de tout le monde, avant tout le maître moyen de présenter toute chose comme trouvée et de ne pas admettre que quelque chose soit encore imparfait et en formation. Tous les livres à effet tendent à laisser une impression semblable, comme si l'on avait ainsi décrit le plus vaste horizon intellectuel et moral, comme si toute constellation visible, présente ou future, devait tourner autour du soleil que l'on voyait luire. La raison qui fait que de pareils livres sont pleins d'effets ne doit-elle pas rendre d'une faible portée tout livre purement scientifique? Celui-ci n'est-il pas condamné à vivre obscurément parmi les gens obscurs, pour être enfin crucifié, pour ne jamais plus ressusciter. Comparé à ce que les hommes religieux proclament au sujet de leur savoir, de leur Saint-Esprit, tous les hommes probes de la science ne sont-ils pas pauvres d'esprit? Une religion, quelle qu'elle soit, peut-elle exiger plus de renoncement, exclure avec moins de pitié les égoïstes que ne le fait la science. Voilà à peu près comme nous pourrions parler, nous autres, et certainement avec quelques fondements historiques, lorsque nous avons à nous défendre devant les croyants. Car il n'est guère possible de mener une défense sans un peu de cabotinage. Mais lorsque nous sommes entre nous, il faut que le langage soit plus loyal. Nous nous servons alors d'une liberté que ceux-ci ne sauraient comprendre, fût-ce même dans leur propre intérêt. Foin donc de la calotte du renoncement, foin de ces airs d'humilité. Bien mieux, et tout au contraire, c'est là notre vérité. Si la science n'était pas liée à la joie de la connaissance, à l'utilité de la connaissance, que nous importerait la science? Si un peu de foi, d'amour et d'espérance ne conduisait pas notre âme à la connaissance, que serait-ce ce qui nous attirerait vers la science? Et bien que dans la science, le « moi » ne signifie rien, le « moi » inventif et heureux, et même déjà tout « moi » loyal et appliqué, importe beaucoup dans la République des hommes de science. L'estime de ceux qui confèrent l'estime, la joie de ceux à qui nous voulons du bien ou de ceux que nous vénérons. Dans certains cas, la gloire et une modique immortalité de la personne, c'est là le prix que l'on peut atteindre pour cet abandon de la personnalité. Pour ne point parler ici de résultats et de récompenses moindres, bien que ce soit justement à cause de ceci que la plupart des hommes ont juré fidélité aux lois de cette République et en général à la science et qu'ils continuent toujours à y demeurer attachés. Si nous étions restés, en une certaine mesure, des hommes non scientifiques, quelle importance pourrions-nous encore attacher à la science? Somme toute, et pour exprimer mon axiome dans toute son ampleur, pour un être purement connaisseur, la connaissance serait indifférente. Ce n'est pas la qualité de la foi et de la piété qui nous distingue des hommes pieux et croyants, mais la quantité. Nous nous contentons de peu. Mais nous répondrons ceci. S'il en est ainsi, soyez donc satisfaits et donnez-vous aussi pour satisfaits. À quoi nous pourrions facilement répondre « En effet, nous ne faisons pas partie des mécontents. Mais si votre foi vous rend bien heureux, donnez-vous aussi pour telle. Vos visages ont toujours nui à votre foi plus que nos arguments. Si le joyeux message de votre Bible était écrit sur votre figure, vous n'auriez pas besoin d'exiger avec tant d'entêtement la croyance en l'autorité de ce livre. Vos paroles, vos actes devraient sans cesse rendre la Bible superflue. Une nouvelle Bible devrait sans cesse naître de vous. Mais ainsi, toute votre apologie du christianisme a sa racine dans votre impiété. Par votre défense, vous écrivez votre propre accusation. Si pourtant vous désirez de sortir de cette insuffisance de votre christianisme, l'expérience de 2000 ans devrait vous amener à une considération qui, revêtue d'une discrète forme interrogative, pourrait être la suivante. Si le Christ a vraiment eu l'intention de sauver le monde, n'a-t-il pas manqué son entreprise ? 99. Le poète comme indicateur de l'avenir. Il reste, en une certaine mesure, parmi les hommes d'aujourd'hui, un excédent de vigueur qui n'est pas employé à la formation de la vie. Cet excédent devrait, dans la même mesure, être voué, sans déduction, à un seul but. Non peut-être à dépeindre le présent, à évoquer et à faire revivre le passé, mais à donner une indication de l'avenir. Et cela ne doit pas être entendu dans ce sens que le poète, semblable à un économiste imaginatif, devrait anticiper en images les conditions sociales plus favorables pour le peuple et la société et la réalisation de ces conditions. Il devra au contraire, comme firent jadis les artistes avec l'image des dieux, exercer sans cesse son invention sur l'image des hommes et deviner les cas où, au milieu de notre monde moderne et de sa réalité, sans aucune mise en garde ou restriction artificielle devant la réalité, la belle grande âme est encore possible. Les cas où, aujourd'hui encore, cette âme saura se présenter sous des conditions harmoniques et proportionnées, devenant durable et prototype par sa visibilité et aidant par conséquent à créer l'avenir en excitant la jalousie et l'esprit d'imitation. Les œuvres de pareils poètes se distingueraient par le fait qu'elles apparaîtraient isolées et garanties contre l'atmosphère et l'ardeur de la passion. La méprise incorrigible, la destruction de toute la lyre humaine, les moqueries et les grincements de dents, et tout ce qu'il y a de tragique et de comique au sens ancien et habituel dans le voisinage de cet art nouveau, serait considéré comme un fâcheux grossissement archaïque de l'image humaine. La force, la bonté, la douceur, la pureté, une mesure involontaire et innée dans les personnes et leurs actes, un sol aplani qui procure aux pieds le repos et la joie, un ciel lumineux qui se reflète sur les visages et les événements, le savoir et l'art, fondu en une unité nouvelle. L'esprit cohabitant sans présomption et sans jalousie avec sa sœur, l'âme, et faisant naître dans l'opposition la grâce de la sévérité et non pas l'impatience du désaccord. Tout cela serait l'enveloppe, le fond d'or général, sur quoi maintenant les subtiles distinctions des idéales incarnés peindrait le tableau véritable, celui de la toujours grandissante dignité humaine. Certains chemins partent de Goethe pour mener à cette poésie de l'avenir. Mais il faut de bons indicateurs et avant tout une puissance beaucoup plus grande que celle que possèdent les poètes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les représentants inconscients de la demi-bête, du défaut de maturité et de mesure, qui se confond avec la force et la nature. 100. La muse en pantésilée. Plutôt cesser d'être que d'être une femme qui ne charme pas. Quand la muse commencera à penser ainsi, la fin de son art sera de nouveau proche. Mais cela peut finir en tragédie ou en comédie. 101. Ce qui est le détour vers le beau. Si le beau est identique à ce qui réjouit, et c'est ce que chantaient jadis les muses, l'utile est le détour souvent nécessaire vers le beau, et il peut repousser le blâme à courte vue des hommes du moment qui ne veulent pas attendre et qui croient parvenir à tout ce qui est bien sans détour. 102. Pour excuser maintes fautes. Le désir incessant de créer, propre à l'artiste, et son besoin de quêter l'extérieur, l'empêche de devenir plus beau et meilleur dans sa personne, c'est-à-dire de se créer lui-même, à moins que son ambition ne soit pas assez grande pour le forcer à se montrer toujours, dans ses rapports avec les autres, l'égal de la beauté grandissante et de la sublimité de son œuvre. Dans tous les cas, il ne possède qu'une mesure déterminée de force, ce qu'il en emploie pour sa propre personne. Comment pourrait-il en faire bénéficier son œuvre? Et vice-versa. 103. Satisfaire les meilleurs. Si au moyen de son art, on a satisfait les meilleurs de son époque, on peut prévoir que, par le même art, on ne satisfera pas les meilleurs des époques suivantes. Il est vrai que l'on aura vécu pour tous les temps. L'approbation des meilleurs assure la gloire. 104. D'une même étoffe. Si l'on est fait d'une même étoffe qu'un livre et une œuvre d'art, on est intimement persuadé que ceux-ci doivent être parfaits. Et l'on est offensé si d'autres les trouvent laids, exagérés ou fanfarons. 105. Langage et sentiment. Le langage ne nous a pas été donné pour communiquer nos sentiments. On s'en rend compte à ce fait que tous les hommes simples ont honte de chercher des mots pour leurs émotions profondes. Ils ne les communiquent que par des actes et rougissent de voir que les autres semblent deviner leurs motifs. Parmi les poètes, à qui généralement la divinité refuse ce mouvement de pudeur, les plus nobles sont monosyllabiques dans le langage du sentiment et laissent deviner la contrainte, tandis que les véritables prêtres du sentiment sont le plus souvent insolents dans la vie pratique. 106. Erreur au sujet d'une privation. Celui qui n'a pas su se déshabituer complètement d'un art, mais à qui cet art continue à demeurer familier, ne se doute pas de loin combien petite est la privation de vivre sans cet art. 107. Les trois quarts de la force. Une œuvre qui doit produire une impression de santé doit être exécutée tout au plus avec les trois quarts de la force de son auteur. Mais si l'auteur a donné sa mesure extrême, l'œuvre agite le spectateur et l'effraie par sa tension. Toutes les bonnes choses laissent voir un certain laisser-aller et elles s'étalent à nos yeux comme des vaches au pâturage. 108. Ne pas accepter comme hôte la faim. Celui qui a faim absorbe la bonne nourriture tout comme la grossière et il n'y voit aucune différence. L'artiste qui a certaines prétentions ne songera donc pas à inviter l'affamé à sa table. 109. vivre sans art et sans vin. Il en est des œuvres d'art comme du vin. Il vaut mieux n'avoir besoin ni de l'un ni des autres et transformer sans cesse soi-même par le feu et la douceur intérieure de l'âme, le vin en eau. 110. Le génie de proie. Le génie de proie dans les arts, qui s'entend même à tromper les esprits subtils, naît quand quelqu'un considère comme butin, dès son plus jeune âge, toutes les bonnes choses qui ne sont pas précisément protégées par les lois et attribuées comme propriété à une seule personne. Or, toutes les bonnes choses des temps passés et des maîtres anciens gisent librement, entourées et gardées par la crainte vénératrice du petit nombre qui les connaît. Ce génie, donc, ose braver le petit nombre et accumuler une richesse qui engendre de son côté la vénération et la crainte. 111. Aux poètes des grandes villes. À regarder les jardins de la poésie d'aujourd'hui, on s'aperçoit que les cloaques des grandes villes se trouvent situées trop près. Le parfum des fleurs est mêlé d'émanations qui laissent deviner le dégoût et la pourriture. Je demande avec douleur, avez-vous un si grand besoin, ô poète, de prendre pour marraine la plaisanterie et la boue lorsque vous voulez baptiser quelques sentiments innocents et sublimes? Faut-il absolument que vous mettiez à votre noble déesse un masque grimaçant et diabolique? Mais d'où viennent ce besoin et cette nécessité? Justement, de ceci, que vous habitez trop près du cloaque.